Bonjour, alors moi je ne m'attendais pas à voir autant de monde finalement, parce que c'est vrai que Zébar draine beaucoup de monde, ce qui est bien, mais c'est cool aussi de vous voir, et on pense aussi à tous nos frères et sœurs qui sont effectivement à Zébar et qui peuvent aussi se réjouir. Alors moi je suis Walter Alexandre, je suis informaticien dans une petite entreprise. Alors ce qui est marrant c'est que comme j'ai plusieurs métiers, je peux dire ce que je veux dans mes différents métiers. Donc aujourd'hui, je suis informaticien. Je suis marié à Laetitia et je suis papa de 3 enfants qui grandissent merveilleusement bien en Dieu. Ah, qu'il est dur de prêcher, hein. Des fois, c'est compliqué parce que j'aime pas prendre un texte au hasard et je n'aime pas les prédications à thème. Alors, je ne sais pas si pour les visiteurs qui sont dans nos églises, dans notre église, si vous avez l'habitude d'entendre des thèmes en prédication, mais moi, je trouve ça pas super cool. Laissons le Seigneur parler à travers un texte, c'est mieux. Et du coup, généralement, j'ai mon texte de prédication dans mes lectures quotidiennes. Et c'est là, à un moment donné, que le Seigneur me secoue et me dit, voilà, fais ça, prêche là-dessus. Et puis là, les derniers temps, compliqué. Alors oui, j'ai toujours mes lectures quotidiennes, mais ce n'est pas les 5, 10 minutes par jour comme ça qui font qu'on est dans la présence du Seigneur. Et moi, je vous encourage vraiment à prendre du temps avec le Seigneur, à pouvoir ouvrir votre Bible et que le Seigneur puisse vous parler. Alors moi, mon texte, je l'ai eu que mercredi. Je me dis, il était temps, Seigneur. Hein. Donc j'ai eu le texte mercredi, on en a échangé un peu avec Jackie par la suite. Je lui ai dit ce que j'avais à cœur. Et ça tombe bien parce que du coup, effectivement, on est raccord avec le passage, avec la Pentecôte, parce qu'on va prendre, pas complètement la Pentecôte, on va prendre juste après. Donc, Jackie vous a fait la Pentecôte, et nous, on va prendre le texte un peu après. Mais avant de commencer justement à lire le texte, j'aimerais que vous puissiez, qu'on puisse comprendre l'histoire et la tradition juive. Alors, Jackie nous en a parlé un peu de cette tradition, mais on va essayer de comprendre pour que vous puissiez bien avoir une vision, un ensemble justement de ce que je vais dire. Alors on va remonter ça avant la naissance de Jésus, bien avant, et vous savez que le peuple d'Israël, il essaye, tant bien que mal, à suivre Dieu, et malheureusement, il n'y arrive pas. Il est infidèle, il n'arrive pas, de nombreuses reprises, comme ça, il chute, et il prend un autre Dieu. Et finalement, au bout de quelques années de désobéissance, les Assyriens vont venir déporter le royaume du Nord. Donc voilà, ça c'est Israël qui est déporté. Et finalement, le royaume du Sud n'est pas mieux. Hein. Quelques années après, une bonne centaine d'années après, on a les Babyloniens qui vont récupérer Juda qui reste et qui vont les déporter. Donc on a tout ce peuple qui est déporté. Et c'est en 538 avant Jésus-Christ, sous le règne des Perses, sous le règne de Cyrus, que Cyrus déclare à un moment donné que, vous pouvez revenir dans votre terre promise, vous pouvez repartir. Et là, on a tout le peuple qui repart en Israël, à Jérusalem, mais pas tous. Et il y en a quelques-uns qui vont, aller autour de la Méditerranée. C'est ce qu'on appelle finalement la diaspora, c'est ces exilés. Et c'est-à-dire que ces juifs ne vivent pas dans la terre promise, mais cette diaspora, elle se situe vraiment autour de la Méditerranée. Alors en réalité, ce n'est pas tout à fait avec Cyrus, ça a commencé avec Cyrus, mais on voit que par la suite, on a, après les conquêtes d'Alexandre le Grand, une fois que son royaume a été divisé, beaucoup de juifs sont partis, et également après les Romains, après Christ. Beaucoup de juifs vont partir et vont s'installer comme ça autour de la Méditerranée. Alors nous, dans notre texte, on ne va pas aller jusqu'à là, mais c'est juste pour que vous compreniez qu'au temps de Jésus, tous les juifs ne vivaient pas en terre promise. Il y avait une grande communauté, cette diaspora, qui vivait autour de la Méditerranée, Et ça, c'est ce qu'on voit dans Actes. Vous l'avez vu dans Actes, quand il y a de nombreuses personnes qui viennent de l'extérieur de Jérusalem. Donc c'est vraiment toute cette communauté autour de la Méditerranée qui vont venir et se réunir à la fête de la Pâque. La première Pâque, hein. La sortie du peuple juif, justement d'Égypte. Alors, pour qu'on comprenne aussi la tradition, alors Jackie nous en a parlé, on voit qu'ils reviennent, tous ces exilés, ils reviennent à Jérusalem pour fêter la Pâque, donc c'est Pessah en hébreu, dans la tradition juive. Mais comme ils viennent souvent de loin, eh ben, ils profitent pour rester dans la capitale, faire des échanges, faire du commerce, visiter leur famille, et ils vont essayer de rester jusqu'à cette fête, la Pentecôte, cette fête juive qui se déroule 50 jours après, qui s'appelle Shavuot. Alors Shavuot, c'est effectivement la troisième fête juive la plus importante. Et il nous l'a dit, Jackie, elle symbolise, ça veut dire, Shavuot, ça veut dire semaine. Et ça symbolise ces 7 semaines que le peuple juif sort d'Égypte et qui va arriver au pied du mont Isaïe, du mont Sinaï, pour avoir cette révélation, pour avoir la Torah. La Torah, c'est les textes bibliques, les textes, les premières lois qu'on a eues, et on retrouve ça dans notre Ancien Testament, une partie de notre Ancien Testament, de notre Bible. Alors voilà, Shavuot, finalement, c'est la fête de la parole. C'est cette parole qui a été gravée sur ces textes, sur ces tables de pierre. Et puis finalement, pour les Juifs, Shavuot, c'est également pour dire, pour symboliser, on renouvelle l'alliance qu'on a eue avec Dieu. Et donc c'est beau de voir que finalement, on se met ensemble pour cette fête-là, pour dire, ok, on est d'accord avec ce qui est marqué sur ces tables de loi, et on est d'accord de renouveler cette alliance avec toi, Dieu. Voilà, là je vous ai planté le décor, et nous allons lire dans notre texte, enfin on va lire le texte, et ça se situe donc juste à la suite de ce que Jackie nous a lu dans Actes 2, 37 à 42. Et là on voit Pierre et les disciples qui ont vécu cette première Pâque chrétienne, c'est-à-dire la mort de Jésus. Alors bon, ça ils ne le savent pas encore à l'époque, hein, quand c'est arrivé. Eux ils étaient désespérés, ils étaient anéantis, Christ est mort. Mais finalement, il y a eu la résurrection, combien de temps après ? 3 jours après, exact. 3 jours après, on a eu la résurrection. Ensuite, Jésus reste avec eux pendant combien de temps ? 40 jours. Il reste avec eux pendant 40 jours. Puis, il y a l'ascension, Jésus remonte auprès du Père. Et pendant les jours suivants, nous avons les disciples qui se réunissent, qui prient, qui élisent un nouvel apôtre. Et ça, pendant combien de temps jusqu'à la Pentecôte ? 10 jours. Voilà. Donc, on a la résurrection de Christ, qui est la Pâque juive. On a les 40 jours, les 10 jours qui font 50 jusqu'à la Pentecôte. Et on arrive à cette Pentecôte, Shavuot, où les gens sont encore là. Cette diaspora, et puis tu as tous les juifs de Jérusalem qui sont là pour fêter cette Pâque. Donc, on voit que l'Esprit Saint arrive, il commence, les disciples, à parler dans des langues étrangères, tout le monde est étonné d'entendre ça. Donc là, on voit hein, beaucoup Babylone, où Babylone, finalement, on avait une langue unique, et puis finalement, ça a été explosé en plusieurs langues, et là, on voit toutes ces langues, ben finalement, où on prêche et on parle de la bonne nouvelle, où tout le monde comprend. Pierre fait un grand discours, parce que vous avez vu dans le texte hein, qu'il y en a certains, alors il y a toujours certains qui sont là pour casser l'ambiance. Vous avez remarqué ça ? C'est dingue, hein ? Nous, on se réjouit et tu as toujours certains qui vont casser l'ambiance et qui vont dire non, finalement, ils sont un peu bourrés. Laissez tomber, il raconte n'importe quoi. Alors moi, je veux bien être bourré et parler dans toutes les langues, ça m'arrangerait parce que je vous avoue que je suis trop nul dans les langues, mais non, ça marche pas vraiment. Et Pierre fait un grand discours pour expliquer ce qui se passe. Et finalement, notre texte, c'est après ce discours de Pierre. Alors Elias, tu peux nous projeter ce discours. Pas ce discours, hein, c'est après ce discours. Alors, ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Donc on est dans Acte 2, 37 à 40... Qu'est-ce que j'ai dit ? 47. Donc ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez !» et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. Alors, on n'oublie pas là, hein, on parle essentiellement aussi à cette diaspora, ces pays lointains, justement. Hein. Pierre continue avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Et il les encourageait en leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. 3000 personnes. On en discutait hier hein, au conseil, on disait waouh, avec 7 baptisés, il va falloir avancer le culte d'un quart d'heure. Allez, on compte 3000 et c'est quelque chose. Hein. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Voilà. Nous avons ici, pour la première fois de l'histoire, la naissance de l'Église. Alors oui, là aussi, les disciples n'en sont pas encore conscients, car ils se réunissent dans la cour du temple. Ils avaient vraiment à cœur de partager Jésus aux Juifs, aux pharisiens, aux chefs religieux, et d'emmener tout le peuple à reconnaître Jésus comme le Messie, comme celui qui devait venir, celui annoncé par les prophètes. Et l'Église, l'Église commence dans ce cadre juif, dans les synagogues, mais très vite, hein, elle va devoir sortir car les chefs religieux ne veulent pas entendre parler de Jésus. Et là commence vraiment l'Église quand ils sont chassés et que la persécution commence. Alors j'aimerais reprendre avec vous le début de notre texte. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Vous aussi, vous avez été touchés par la parole de Jésus. On pourrait traduire le texte par « Ils l'entendent, hein, le discours de Pierre, et ils sont piqué au cœur, percé au cœur. L'amour de Jésus, c'est ça, ça ne rend pas indifférent. Il permet de prendre conscience de notre misère, prendre conscience que nous sommes remplis de ce qu'on appelle le péché. Laetitia, ma femme, a un cabinet de psychopraticienne et dans le monde de la psychologie, il y a beaucoup d'écoles qui vont montrer que l'homme est bon, mais qu'il se fait finalement corrompre, pourrir, par les autres ou par la société. Et Laetitia est obligée de dire à un moment donné, « Ben non, le problème ne vient pas forcément des autres, mais d'abord de notre cœur. C'est lui qui nous donne des pensées mauvaises. C'est lui qui est impatient, qui veut faire le mal autour de nous. » Ça vous est déjà arrivé ? Ouais. Je viens d'une famille où l'apparence est importante. Il faut montrer qu'on est beau, qu'on est fort dans le sport, dans le travail. Et c'est horrible parce que j'ai tout ce vécu, tout ce qu'on m'a enseigné quand j'étais plus petit. Et mon cœur, il va tellement vite juger les gens à leur apparence. Et je suis obligé de dire à un moment donné, non, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas voir l'apparence extérieure des personnes. Je veux voir leur cœur. Je veux voir où ils sont et les aimer dans les difficultés qu'on a chacun à se trouver, mais aussi à trouver son Créateur. Et Jésus est là pour vous aimer. Jésus, Dieu lui-même, venu dans un homme pour mon âme, pour mon cœur rempli de mal, mais aussi pour ton cœur à toi. Et ne crois pas que tu es trop imparfait pour mériter cet amour. Ne crois pas que tu ne pourras jamais être pardonné. Ne crois pas que tu ne peux pas changer. Car Jésus, Dieu lui-même, qui bouleverse les cœurs, qui les perce ses cœurs, c'est Dieu lui-même. Il est capable de transformer des cœurs en chair, des cœurs chauds qui aiment Dieu et qui aime son prochain, son voisin, la personne qui t'a fait du mal, la personne que tu ne peux pas supporter. Jésus est venu pour changer cela. Alors laisse-toi approcher par Jésus. Laisse-toi, comme à la Pentecôte, remplir de Saint-Esprit que Dieu envoie. Car en réalité, ce n'est pas tout à fait juste ce que je raconte théologiquement. Car ce n'est pas Jésus qui change les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à comprendre qui est Jésus et qui va t'aider à changer ton cœur de pierre en un cœur de chair. Et ça, on le voit dans notre texte. Frères, que devons-nous faire ? Le Saint-Esprit secoue les cœurs, il les perce, ces cœurs de pierre. Et c'est comme s'il vient avec un marteau piqueur comme ça, il te burine le cœur, et il burine dessus. Et que nous dit l'apôtre Pierre ? Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Autrement dit, accepte Jésus comme ton sauveur. Lui seul peut te sauver de toi-même, mais aussi de la colère de Dieu sur nos fautes. Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus pour que vos péchés vous soient pardonnés. Et la suite ? Le Saint-Esprit. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle vraiment qui est Jésus. Seul le Saint-Esprit travaille votre cœur pour comprendre tout l'étendue du péché qu'on a. Car des fois, on n'aime pas ça. On n'a pas envie de voir ce qu'il y a dans notre cœur. Il y a 2-3 semaines en arrière, j'étais tranquillement posé sur une chaise longue. Il faisait beau à ce moment-là. Ouais, ça existait à un moment donné. J'étais posé tranquillement sur une chaise longue en train de bouquiner et je lisais un bouquin et subitement le Saint-Esprit me tombe dessus. Zbeuf ! Alors non, ça tombe pas comme ça dessus, ça tombe discrètement. Et ça commence à te murmurer des choses. Et le livre que j'étais en train de lire parlait d'une femme qui devait se repentir de son péché. Alors c'est, voilà, c'est un livre qui est vraiment très intéressant. Et le Saint-Esprit me murmure comme ça à l'oreille et me dit « Et toi, où en es-tu »
Moi, Seigneur, avec le péché, pas de problème, c'est bon, pas de péché. »
Ah ouais ? Et il y a 21 ans en arrière.
Non, ça c'est un coup bas, ça. Non, 21 ans, il y a prescription. Hein. On n'a plus le droit de revenir jusqu'à 21 ans en arrière.
Ça, c'est sérieux, hein, c'est un coup bas, Seigneur. Il y a 21 ans en arrière, j'étais électricien. J'étais dans une petite entreprise et je devais quitter cette entreprise pour reprendre mes études. Et avec le patron, on avait longuement discuté pour savoir si je pouvais avoir une rupture conventionnelle. Parce que je devais reprendre mes études, c'était difficile financièrement, on était déjà mariés, on n'avait pas encore d'enfants, et le patron ne voulait pas. Eh ben ok, si c'est comme ça, je vais piquer du matos. Et j'ai piqué du matos électrique.
Ah ouais, je suis pas fier.
Et 21 ans après, le Saint-Esprit te secoue le cœur encore et te dit « Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas réglé dans ta vie. Et il va falloir que tu le règles. » Aïe, 21 ans. Ok, comment on fait pour régler ça ? Alors même si c'est difficile hein, de demander pardon, ne laissons pas de côté. Écoutons le Saint-Esprit. Je sais que c'est compliqué et je sais que c'est difficile. Mais j'ai quand même dû capituler devant le Seigneur. Et oui, c'est vrai, ce jour-là, je n'ai pas été correct. Et malgré que je te connaissais déjà, Seigneur, malgré ça, j'ai fait une bêtise. Et donc, j'ai décidé que tout de suite dans la semaine, il faut tout de suite prendre la chose à bras-le-corps tout de suite, parce que je sais que sinon, il y a la flemme qui s'installe et on va essayer d'oublier ça, essayer de l'enterrer au plus profond et de dire non, c'est jamais arrivé, comme ça c'est réglé. Non, tout de suite dans la semaine, j'ai pris mon agenda, j'ai dit ok, là j'ai un temps libre, j'y vais. Je vais retourner dans cette entreprise 21 ans après. Alors c'était marrant, j'ai retrouvé un vieux collègue, donc on a bien rigolé parce qu'il avait les cheveux gris et moi aussi. Et le patron... Trois fois ou deux fois, il a changé déjà. Donc, plus du tout le même. Donc, j'y vais. Je lui explique que j'ai travaillé dans cette entreprise, que j'ai été, j'étais content. Je suis content de revenir, de voir d'anciens collègues. Et je dis, voilà, je voudrais te demander pardon, même pas par rapport à toi, mais par rapport à l'entreprise en elle-même, parce qu'il y a 21 ans, j'ai travaillé pour toi et je n'ai pas été correct. Et je t'ai volé du matériel. Et j'aimerais vraiment sincèrement te demander pardon et j'aimerais qu'on puisse régulariser la situation.
Du coup, il m'a fait une facture. Cool, j'ai reçu une facture à la maison de quelque chose que je n'ai pas acheté mais que j'ai volé il y a bien longtemps.
Accepter Jésus maintenant, mais pas demain. Commencer ce chemin avec lui aujourd'hui, mais pas demain. Car je connais trop le cœur de l'homme. On est trop feignant. On a trop envie de repousser toujours au lendemain. Et il ne faut pas. Et j'ai voulu vraiment réparer ma faute rapidement parce que je savais que ouais, j'allais encore laisser traîner ça. Et Jésus est venu pour que ta vie change, alors ne passe pas à côté. Le Saint-Esprit t'est donné gratuitement pour t'aider à changer et à faire un demi-tour, un 180 degrés, cette conversion. Alors ne passe pas à côté. Et si vraiment à la fin du culte, tu es vraiment bousculé par le Saint-Esprit, viens pour qu'on prie ensemble. C'est tellement important. Pour qu'on n'ait plus des cœurs de pierre, mais des cœurs de chair. Et j'aimerais continuer encore dans notre texte. Pierre continuait avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et les encourager, leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Waouh ! 2000 ans après, c'est toujours encore d'actualité. Hein ? Toujours encore difficile, toujours une génération qui n'a pas envie de Dieu et qui va t'emmener tellement loin de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là, hein. Le texte il est riche, il nous montre encore d'autres choses. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Alors comment on fait pour grandir avec Dieu ? Avoir toujours plus un cœur de chair. On s'attache à écouter l'enseignement. On vit en communion les uns avec les autres. On mange ensemble et on prie ensemble. En un mot, c'est quoi tout ça ? C'est l'Église. Et je rencontre malheureusement de plus en plus de gens, de chrétiens, qui vivent leur foi loin de l'Église, de la communauté. Et je vous garantis que vendredi dernier, j'étais pas mal énervé parce que j'ai rencontré 2-3 personnes comme ça qui m'ont énervé parce que c'est des chrétiens qui me disent « Non, non, mais l'Église, franchement, c'est mort. Moi je ne mets plus les pieds dans une église. Ce qui est le plus important, c'est vraiment des tout petits groupes, des petites cellules de maison. » Ou alors d'autres qui m'ont dit « Non, non, mais ce qui est vraiment important, c'est vraiment les grands rassemblements et de faire des expériences de fous avec le Saint-Esprit. » Alors oui, oui, c'est important. C'est important d'avoir des expériences de dingue avec le Saint-Esprit. Et ça, je le nie pas. C'est bien parce que ça nous permet de grandir. Et c'est bien les petits groupes. C'est important de pouvoir partager ensemble. Oui, c'est important. Mais le souci, c'est que ce n'est pas tout à fait ça l'Église. Et la parole est claire dans le Nouveau Testament. L'Église est mentionnée tellement de fois. Ce n'est pas une option que tu peux faire. Venir, butiner, rester chez toi. Non, ce n'est pas une option que Dieu te laisse. C'est une affirmation. On a tellement de passages sur l'Église, et je vais juste en prendre un seul, dans Jean 13, 34 à 35, qui nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Comment on fait pour avoir de l'amour dans notre petit groupe, si tout le monde nous ressemble et pense à la même chose que nous? Parce que c'est ça la plupart du temps, on fabrique des petits groupes où tout le monde pense la même chose que nous. On a le droit de ne pas toujours être d'accord. Et oui, l'Église c'est difficile, c'est une famille, et des fois dans la famille, ben, ça se fight. Des fois, c'est difficile, on se tape dessus. Mais que nous dit Jean ? À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas dans les petits groupes qu'on apprend à vivre dans l'amour de celui qui m'énerve, à vivre dans l'amour de celui qui m'a trahi parce qu'il a balancé mes secrets à tout le monde, à celui qui ne sait pas tenir sa langue. Et en même temps, moi j'ai envie de vous dire, je vous aime. Je vous aime tellement. Et j'aime voir la communauté se réunir. Et j'ai envie de me réjouir avec chacun d'entre vous au paradis, plus tard, prendre du temps ensemble à pouvoir discuter.
Et dire, oh, tu te souviens dans le temps ce qu'on faisait sur Terre ? Non, on se souviendra plus de tout ça.
Mais vraiment, se prendre du temps ensemble, manger ensemble. Mais en même temps, j'ai envie de le faire maintenant, là, aussi tout de suite avec vous. Et c'est pour ça qu'on a des moments où on peut manger ensemble, des moments où on l'a annoncé, où on peut se réunir pour prier ensemble, des moments où on sent que la communauté vit et qu'elle est ensemble. Christ nous demande explicitement de devenir un disciple. Et le disciple, c'est une personne qui est capable de vivre comme Christ, ok, c'est difficile, mais on essaye d'y tendre, et en même temps, d'aider l'autre à faire de même. Vous comprenez ? Le disciple, ce n'est pas que
le fait d'essayer de ressembler à Christ. C'est aussi cette partie d'aider l'autre à grandir en Christ. Et vendredi matin, du coup, quand je me suis levé, vous avez compris que j'étais énervé à ce moment-là. Vous sentez que je suis encore énervé ? Ouais. Et je, ouais, du coup, ce vendredi matin, je me lève et Elias il était déjà debout. Et du coup, je lui dis, première chose que je lui dis, Elias, c'est quoi l'église ? 7 heures du matin, vous voyez le truc, je suis un père indigne. Et le garçon, il me répond tac au tac. Hein. Il ne cherche pas à comprendre pendant 5 minutes une réponse théologique. Il me répond tac au tac, l'église, papa, c'est aider les autres à grandir. Pouah, je suis tellement fier de toi, garçon. 12 ans, et il a compris une grande partie déjà de ce que c'est l'église. Oui, les expériences de ce dingue avec le Saint-Esprit, c'est important. Mais après, on redescend et on aide les autres à monter vers Dieu. S'il vous plaît, ne négligez pas qui nous sommes en tant qu'Église. Ne néglige pas le frère et la sœur qui est à côté de toi. Aide-le à grandir, à prier avec lui, partage le pain avec lui, vivons la communion ensemble, soyons attachés à l'enseignement. Car le gros problème des petites structures, je néglige pas les petites structures, hein. Il faut savoir que en tant qu'évangéliste, on étudie beaucoup les petites structures et qu'il y a plus de petites structures que d'églises dans le monde. Et que des petites structures, c'est important, surtout dans les pays persécutés. On ne peut pas se réunir à 50 dans les pays persécutés. Mais le problème, souvent, et ça, moi, je le vois, alors personnel, je ne sais pas s'il y a des sondages là-dessus, mais je vois trop de frères et sœurs dans des petites structures, dans des micro ou macro églises comme ça, glisser théologiquement. Avoir des pensées qui ne viennent plus vraiment de Dieu. Et à un moment donné, voir le diable partout. J'ai eu des amis à moi qui, ben, dans chaque chose de leur vie qu'ils faisaient, ils voyaient le diable. Ils disaient, tu vois ça, ça c'est le diable. Regarde ça, ça c'est le diable aussi. Je suis sûr il a un démon. Non, pas forcément. Ça peut juste être le cœur de la personne qui est endurcie. Et qu'est-ce qu'on fait ? On n'y va pas. Non, on y va. Et on lui parle de Christ. Et on l'aide à grandir. Et on l'aide à grandir. Et on la ramène dans une communauté. En réalité, c'est toujours la même chose. Ce que je vous ai dit au début, notre cœur, souvent, il s'endurcit à nouveau. Et nous empêche de voir le cœur des autres. Et nous aussi, en tant que chrétiens, on peut avoir le cœur qui redevient pierre. L'Église, vous et moi ensemble, tous ensemble, pour grandir, nous encourager à tenir bon jusqu'au bout, avec de l'amour les uns pour les autres. Et comme ça, quand mon cœur, et ça, ça m'est déjà arrivé, quand mon cœur il commence à s'endurcir, eh ben j'ai un frère qui me tape sur l'épaule et qui me dit, tu sais Alexandre, là, c'était pas cool ce que t'as fait, viens on prie ensemble. Et moi, j'aime ça. J'aime quand tu as des frères et sœurs qui peuvent t'aider à revenir auprès de Dieu. Alors, vous savez que les messages sont enregistrés, ils sont posés sur des podcasts. Alors maintenant, je vais justement parler aux gens qui nous écoutent. Plus à vous, l'assemblée. C'est la première fois qu'un prédicateur parle plus à son assemblée. Alors, vous inquiétez pas, je vous laisse pas seul. Je vous montre un diagramme, d'accord ? Pendant que je parle à ceux qui nous écoutent en podcast, vous pouvez suivre ce triangle sur les chrétiens, l'assemblée et les mens, et puis les responsables et les anciens. Mais toi qui nous écoutes, si tu es malade, dans l'incapacité de venir, appelle ton église à te rendre visite, n'attends pas. Si tu es de passage sur le site internet et que tu as l'habitude d'écouter des messages, mais pas de venir. Alors je t'encourage de tout mon cœur à choisir une communauté et à y rester. Car c'est ta famille. Et aide les uns et les autres à grandir en Christ. Et je suis lucide, hein. Je sais très bien qu'il y a des communautés qui ne vont pas bien. Mais si tout le monde part, qui les aidera à revenir auprès de Dieu et à être un véritable disciple ? Je vais m'arrêter là. J'aimerais juste vous encourager chacun à choisir une communauté et à grandir avec elle, et que votre cœur puisse être percé, buriné par l'amour de Christ. Et juste une dernière chose, ce n'est pas un hasard que le Saint-Esprit soit répandu à la Pentecôte, à Shavuot, 50 jours après la Pâque. On vient pour célébrer, Shavuot, hein, on vient pour célébrer la loi sur des tables de pierre et dire oui à cette alliance. Le Saint-Esprit est venu pour transformer cette loi dans un cœur de chair et dire oui à la nouvelle alliance qui complète pleinement l'ancienne. Et toute cette diaspora juive est rentrée chez elle avec un cœur de chair, avec une nouvelle alliance. Et c'est le début de l'Église. Moi, je vous aime et je dis Amen. J'aimerais encore prier. Seigneur Jésus, permets-moi d'aimer. Permets-moi juste de t'aimer toi, mais surtout d'aimer l'autre. Même s'il me blesse, même si c'est difficile de vivre dans cette famille que tu m'as donnée. Ah Jésus, je te prie pour notre assemblée, pour notre Église, permets-nous de grandir ensemble. Touche plus encore, touche-moi encore, touche-nous encore plus. Permets-nous de nous réjouir ensemble, de pleurer ensemble, de rompre le pain ensemble. Oui Jésus, donne-nous juste ton Esprit Saint, afin d'avoir un cœur rempli d'amour pour l'autre. Et permets-moi d'aimer comme tu m'aimes. Amen.